Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Quand t'es positif, t'attires du positif, tu vois, c'est vraiment un cercle vertueux. Et au final, moi je le vois bien, des gens qui râlent tout le temps, au bout d'un moment t'as plus envie de les voir.
Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Mathilde Lacombe. Mathilde a 30 ans, est maman de 3 enfants et est entrepreneuse à succès. Elle est la fondatrice de Jolibox, qui a depuis fusionné avec Birchbox pour devenir le leader mondial des box de beauté. Mathilde blogue depuis 10 ans et tous les jours, des dizaines de milliers de personnes suivent ses conseils lifestyle et beauté. Elle vient de publier un livre, Une question d'équilibre, dans lequel elle raconte, entre autres, comment elle parvient à concilier succès professionnel et équilibre personnel. On parle d'équilibre de vie, je lui demande comment elle fait pour que ses personnalités publiques et privées coïncident. On parle de son état d'esprit, de son optimisme et de son besoin de se projeter. Elle donne plein de très bons conseils d'entrepreneuriat avec un recul que j'ai trouvé très intéressant. Pensez à vous abonner sur Apple Podcasts ou iTunes en cherchant Nouvelle École, ça m'aide énormément et bonne écoute. Eh bien bonjour Mathilde Lacombe.
Bonjour Antonin.
Je suis très content de te recevoir. Parce que notamment je t'avais entendu dans d'autres podcasts comme Génération XX et je me suis dit c'est vraiment intéressant, j'aimerais bien la rencontrer. Merci d'être venue, en plus tu viens de Reims, tu passes par
un
chez moi.
Donc, Je passe par chez toi?
Ouais.
Ah bon?
Bah là tu passes par chez moi.
Ah oui, je croyais que t'étais de Reims.
Non, pas vraiment.
Je découvre un peu comment.
Mathilde, t'es la fondatrice de Jolibox qui est devenue, qui a fusionné ensuite avec Birchbox. Birchbox qui est le leader mondial des box de beauté, quoi. Que j'ai découvert il y a quelques années quand je cherchais un cadeau de Noël pour une copine
ouais.
Et je me suis dit mais c'est vraiment le cadeau de Noël parfait. Ce truc,
ouais, je crois qu'on sauve beaucoup d'âmes à chaque
c'est ça, c'est vraiment je pense que personne ne va renier un cadeau de Birchbox pour Noël, quoi.
Ouais, bah non, mais c'est ouais, c'est un peu le cadeau parfait, mais c'est marrant parce que c'est à la fois le cadeau parfait pour quand tu veux l'offrir à quelqu'un et à la fois le cadeau parfait. En fait, nous, nos abonnés, souvent, ils nous disent j'ai l'impression de me faire un cadeau. En fait, tu vois, elle paye 13 euros par mois, mais le fait de recevoir dans ta boîte aux lettres tous les mois ce colis, ça donne vraiment cet effet. En plus, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, ça fait vraiment l'effet cadeau surprise qu'on recherche.
On a parlé de plein de choses. T'as publié un livre qui s'appelle Une question d'équilibre, aux éditions First.
Ouais.
Et on va revenir sur ce bouquin. Tu es aussi la créatrice du blog, donc La Vie en Blonde, dont tu as perdu.
Feu La Vie en Blonde,
dont tu as perdu beaucoup d'articles, tous les articles récemment. Et puis, tu as aussi une présence assez énorme sur les réseaux sociaux que tu cultives depuis très longtemps.
Ouais.
Et ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. Je pense qu'on peut commencer. C'est une question assez naïve, mais que finalement, je commence à poser assez régulièrement quand les gens écrivent un livre. J'ai envie de leur demander pourquoi tu avais envie d'écrire ce livre.
Alors, pourquoi j'avais envie d'écrire ce livre? Alors d'abord, c'est la maison d'édition qui est venue me chercher, en fait. C'est pas moi qui étais avec mon petit projet en train de chercher des maisons d'édition. Et j'ai eu un vrai coup de cœur, en fait, avec mon éditrice Aurélie, et qui est vraiment venue me voir, voilà, qui suivait mon blog, qui me suivait sur les réseaux sociaux, et qui m'a dit, voilà, tu as carte blanche si tu devais écrire un livre. Et comme, effectivement, dans des interviews, j'avais déjà dit que ça faisait un peu partie de mes rêves. Voilà, elle m'a dit, si je te donne carte blanche, fais le livre de tes rêves. Et voilà, et c'est vrai que ça m'est un peu apparu comme une évidence. Enfin, ça fait 10 ans que j'écrivais sur mon blog, que je partageais sur les réseaux sociaux. Et que je fais beaucoup d'interviews, mais comme je te disais juste avant qu'on démarre le podcast, c'est que parfois dans des interviews, t'as pas forcément le temps, les moyens de vraiment raconter tout ce que tu ressens, comment tu vis les choses. Et je me disais qu'avec un livre, c'était la bonne occasion de faire ça, en fait.
Ouais, ce qui est important pour toi. Pourquoi du coup le thème de l'équilibre?
Alors ça, c'était vraiment important parce que j'ai été énormément sollicitée par des maisons d'édition depuis très longtemps, mais qui voulaient que je fasse des livres beauté avec des tutoriels beauté ou ce genre de choses. Et je t'avoue que ça me tentait pas du tout. Et là, ce que j'aimais, c'était vraiment ce côté... Au final, c'est exactement ce que je fais sur mon blog et sur mes réseaux sociaux. Certes, il y a 10 ans, j'étais une blogueuse beauté, mais le fait que maintenant j'ai des enfants, que je sois entrepreneur et tout, fait que... finalement, ce que je partage, c'est beaucoup plus un lifestyle que juste des conseils beauté. Et surtout, en fait, je vois que les questions, les retours que j'ai des filles qui me suivent, c'est avant tout des questionnements sur justement comment tu arrives à gérer, comment tu arrives à avoir des enfants, à avoir un boulot qui te plaît. Et voilà, et chanter que c'était ça qui me semblait bien plus intéressant à creuser et d'expliquer plutôt que de juste à montrer comment faire un trait d'eyeliner, tu vois.
Ça a été conscient dans l'équilibre, dans sa construction, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as analysé a posteriori?
Bah, je pense que c'est... Il y a quelque chose qui est plus ou moins conscient, parce que de toute façon, c'est des choix de vie que tu fais et que j'ai toujours fait en sorte que je savais que j'avais... à la fois envie de bosser, de m'épanouir là-dedans, et en même temps j'ai toujours su que j'avais envie d'avoir des enfants jeunes, et donc forcément tu fais des choix pour t'assurer de trouver ce fameux équilibre. Donc tu vois, le fait d'habiter en province et d'être près de mes parents et de mes beaux-parents, enfin il y a plein de choses comme ça qui finalement participent à mon équilibre et que j'ai pleinement choisi. Donc c'est pas juste un hasard où 10 ans après je me dis ah bah oui, finalement j'ai trouvé mon équilibre. En fait, tu vois, j'y travaille au quotidien, et c'est ce que je dis, c'est que de toute façon l'équilibre, c'est quelque chose de très fragile, et que mon équilibre que j'ai trouvé là aujourd'hui, dans 6 mois, il sera peut-être complètement différent, tu vois. Donc
et puis peut-être que c'est un équilibre de... Si tu lisses, non, tu dois avoir des hauts et des bas.
Ah bah complètement. De toute façon, ce bouquin, il n'était pas là pour dire j'ai une vie parfaite, faites comme moi, regardez, j'ai mes 3 enfants, ma start-up. Non, pas du tout. C'est que de toute façon, je suis comme... c'est pas parce que je suis sur Instagram que mes enfants sont parfaits, dorment très bien. Voilà, je suis comme n'importe quelle maman. J'ai des jours où je galère, j'en ai plus que marre. Tu vois, ce matin, j'ai mis 2h30 pour revenir jusqu'à toi. Enfin, il y a des jours où j'en ai juste marre, je suis fatiguée, il y a des choses qui vont pas. Mais encore une fois, je pense que c'est aussi dans ma nature d'être optimiste et de voir les choses de manière positive.
Ça vient d'où justement cet optimisme?
Ça vient d'où? Ça vient de...
Parce que c'est assez important dans tout ton parcours, dans tout ce que tu fais, en fait.
Je pense que ça vient du fait que je réalise que j'ai... finalement, j'ai toujours réalisé que j'avais quand même... Je suis consciente, en fait, de la chance que j'ai d'avoir pu faire les choix de vie que j'ai fait. En fait, dès que ça va pas, je vais énormément relativiser et me dire il y a tellement pire que moi. Et tu vois, j'ai toujours fait ça, en fait. Même, je sais pas...
Depuis petite, tu fais ça?
Oui.
Ça t'arrive souvent, les moments où...
Après, je pense que parfois, j'ai une maman qui a plutôt tendance à... C'est plutôt l'inverse, en fait. Elle va plutôt dramatiser les choses. Et donc, peut-être que c'est un peu de se dire, je prends un peu le contre-pied de ça et je me dis, bon, finalement, il y a pire que nous. Et voilà, en fait, c'est... je me dis c'est important pour avancer parce qu'en fait dans la négativité tu t'avances jamais en fait si tu t'apitoies tout le temps sur ton sort si rien ne va si et puis je trouve qu'en fait tu enfin c'est très bête à dire mais quand t'es positif t'attires du positif tu vois c'est vraiment un cercle vertueux et au final moi je le vois bien des gens qui râlent tout le temps bah au bout d'un moment t'as plus envie de les voir t'as pas envie de discuter avec eux enfin je sais pas
ouais t'attires ce que tu dégages
ouais mais complètement. Enfin, bah, moi, j'en suis persuadée.
Mais t'arrives à rationaliser comme ça. Non, parce que,
ouais.
Pour le coup, ça, c'est quelque chose que je pense avoir très bien intégré, que t'attires ce que tu dégages.
Ouais.
Ce qui ne m'empêche pas, quand j'ai des coups de mou, c'est-à-dire tous les jours,
ouais.
De me dire, non, mais ça va, regarde la chance que t'as.
Ouais.
Ça, je me dis ça une minute. Et ensuite, je me dis, non, mais c'est quand même... tu vois. Et ensuite, j'oublie de rationaliser, j'arrive pas.
Ouais, ouais. Bah moi j'y arrive enfin je dis pas que j'y arrive à tous les coups mais j'y arrive après
c'est un travail aussi long terme
oui je pense que c'est un travail je pense qu'il y a le fait aussi d'être exposé sur les réseaux sociaux fait que j'ai un peu comme une sorte de pas de mission mais je me dis bon bah si moi je commence à broyer du noir tous les jours à voilà à ne plus réussir à positiver, bah, je me dis, Léon, que ça va être compliqué pour beaucoup d'autres, en fait. Donc, voilà. J'ai pas l'impression que ce soit un effort non plus, tu vois. Okay. Ça me paraît assez naturel. Enfin, voilà, c'est spontané, mais je te dis, il y a des jours. Après, c'est aussi mon mari qui est un peu mon exutoire. Le pauvre, il se prend aussi un peu de tout, justement, quand ça va pas, quand je déprime. Je vais clairement pas aller le dire sur mes réseaux sociaux et je vais plutôt en parler avec lui.
C'est intéressant qu'on, sur les réseaux sociaux, on, notamment Instagram, c'est vraiment le réseau social où tu ne vas pas poster ta déprime, quoi.
Ouais.
C'est vraiment pas ce réseau social-là. Est-ce que parfois t'as le sentiment, du coup, qu'il y a deux personnes ?
Non, je dirais pas. Par contre, c'est plutôt que sur Instagram, s'il y a un jour où ça va pas, où j'ai vraiment pas le moral, bah dans ce cas, je vais juste pas poster en fait. Je vais pas mettre d'Instagram.
Et du coup, est-ce que tout le monde vient te dire ah tu vas mal ?
Non, parce qu'en fait, c'est jamais j'ai jamais des périodes de où ça va pas pendant 15 jours. Donc en fait, si je poste pas pendant 3 jours, les filles. C'est ça qui est... Après, je pense que j'ai une communauté aussi qui... c'est des femmes qui ont plutôt 30, 40... Enfin, c'est des femmes, comment dire, mûres. Et c'est pas un fan club de filles de 15 ans qui sont complètement à l'affût de mes moindres faits et gestes, tu vois. Donc, je pense qu'il y a une prise de recul qui est faite des deux côtés. Et donc, voilà, elles savent que je publie... Je pense qu'encore une fois, elles sont pas dupes parce que souvent, ça nous est reproché ce côté très lisse d'Instagram et tu partages que ce qui va. Je pense que, en tout cas, les femmes qui me suivent, voilà, sont pas dupes et qu'elles savent que j'ai 3 enfants et que, comme n'importe quelle femme, forcément, parfois, c'est compliqué. Je suis fatiguée. Mais encore une fois, moi, en tout cas, en tant qu'utilisatrice d'Instagram, c'est pas ce que je vais chercher sur Instagram. Tu vois, j'aime pas ces femmes qui vont venir raconter les nuits chez le pédiatre, les dents qui poussent, tous les trucs. On le vit tout en tant que maman, en fait. Donc, voilà, il y a pas... De temps en temps, c'est sympa d'en parler un tout petit peu, mais de là à venir te plaindre nuit et jour, je pense que c'est pas intéressant.
Toi, t'aimes pas exposer ce genre de côté, même si c'était pas sur Instagram?
Non, mais en fait, c'est marrant parce que même pas sur Instagram, en fait, je suis pas du tout du genre à me plaindre, même auprès de mes parents, même auprès de mes amis. Mes amis, elles vont te le dire, j'ai tendance à pas le dire en fait quand ça va pas. Je le garde pour moi et j'avance.
Tu le sors à quel moment du coup ?
Je le sors, je sais pas, j'intériorise beaucoup et encore une fois, je pense que ça va vraiment plutôt être avec. Vraiment plutôt avec mon mari en fait que ça. Non mais c'est vrai, je sais pas, c'est. Si, non mais avec mes amis, tu vois, c'est pareil. Si comme on habite un peu tout aux quatre coins de la France, quand on se voit, je t'avoue, j'ai pas forcément envie d'être en mode raconter tous nos problèmes et tout. C'est plutôt on profite du bon moment et tout. Bon, alors que mon mari, je le vois tous les jours, donc je peux me permettre de l'embêter avec mes soucis.
C'est intéressant ce que tu dis sur. T'as dit vaguement une mission.
Ouais.
Est-ce que t'as le sentiment de devoir apporter quelque chose de positif ?
Bah. en tout cas, alors peut-être que mission c'est un peu fort, mais en tout cas que je sais qu'il y a des femmes qui me suivent. Voilà, ça fait 10 ans que je suis que j'ai mon blog. Ça doit faire 6 ans que je suis sur Instagram. Donc je sais qu'il y a des femmes qui me suivent et que j'ai un impact plus ou moins fort, en tout cas sur peut-être pas sur leur quotidien, mais parfois sur des choix qu'elles ont fait dans leur vie. Et que...
Ça se manifeste comment, elles te le disent?
Oui, elles me le disent et c'est très touchant. Enfin, je reçois beaucoup de mails chaque semaine. Là, avec les dédicaces, les rencontres dédicaces que je fais pour la sortie de mon livre, j'en rencontre beaucoup. Et ouais, c'est très touchant parce que parfois, il y en a vraiment qui me disent « c'est grâce à toi que j'ai fait ça » ou il y en a même une derrière moi qui m'a dit « bah, ça y est, j'ai lu ton livre et grâce à toi, j'ai eu le déclic. Le petit troisième que je voulais depuis des années, bah, ça y est, je me lance. » Enfin, parfois, ça peut paraître vraiment... anodin, mais finalement, tu peux avoir un vrai impact sur des gens juste à travers un fil Instagram. Et ça, j'en ai vraiment conscience. Et donc, encore une fois, c'est pour ça que à la fois, je suis spontanée dans ce que je publie parce que c'est pas planifié 3 semaines à l'avance. Et en même temps, il y a un côté calculé parce que voilà, j'ai pas envie de publier n'importe quoi parce que je sais l'impact potentiel que ça peut avoir derrière.
J'allais dire un truc.
T'as perdu. J'ai écouté plusieurs de tes podcasts et j'ai remarqué que parfois tu perdais tes questions.
Tu sais pourquoi je perds le fil parfois? Parce qu'en fait, je ne veux pas avoir ma liste de questions que je pose. Ouais. Du coup, j'écoute ce que tu me dis et je vais enchaîner. Mais ensuite, parfois, j'oublie ce que je veux dire. Je sais ce que je veux dire. Je parlais des femmes qui te suivent. Tu dis que ça les impacte et que ça les impacte positivement. Et est-ce que parfois, tu sais, on a parlé du fait que tu postes pas de choses négatives, etc. Ouais. Est-ce que parfois, il peut y en avoir qui te disent que ça va faire se sentir mal plutôt, ce côté tout va bien.
Culpabilisant. Ouais. Et alors, j'ai pas beaucoup de retours.
Parce que je pense que quand on creuse, et quand on est en podcast, par exemple, tu vas me dire qu'il y a des moments difficiles, des choses comme ça. La manière dont, que ce soit les médias ou ton profil en ligne est représenté, on a une impression de quand même que tu réussis
que tout.
Tout
va bien.
Tout va bien, quoi. Que tout tombe au bon moment.
Oui, mais après, dans les faits, tout va bien. Enfin, tu vois, si je prends du recul, dans les faits, voilà, je suis hyper contente de ma vie aujourd'hui. Après, encore une fois, je pense que c'est comme n'importe quelle personne qui bosse, qui a des enfants, bah forcément, il y a des hauts, il y a des bas. Mais je pense que ça fait partie de la vie de n'importe quelle personne, qu'elle soit sur Instagram, qu'elle soit entrepreneur ou pas. Et c'est de ce constat-là, en fait, que je me dis, j'ai pas besoin d'aller raconter ça. En fait, encore une fois, je pense que les gens ne sont pas dupes et je suis une personne comme les autres et que donc, j'ai.
Moi, je suis très dupe. Hein. Je sais que.
Toi, t'es très dupe.
En grandissant, j'ai toujours cru pendant très longtemps, mais je crois que c'est vraiment récent, peut-être depuis Nouvelle École.
Tu prends du recul sur
les gens.
Ouais.
Moi, j'avais vraiment tendance à me dire, à rencontrer des types où ça, tout avait l'air parfait et je me disais, mais tout est parfait dans leur vie. Comment ça se fait que dans la mienne, tout c'est pas parfait?
Ouais.
Il y avait vraiment un côté comme ça, quoi, pour moi.
Alors que moi, j'ai toujours eu plutôt ce. Tu vois, même par exemple, quand j'étais plus jeune, j'allais suivre beaucoup de people ou de. Et finalement, après, t'entends toujours des déboires ou des trucs et tu dis, mais finalement, c'est des personnes comme les autres, en fait, et que donc, elles ont forcément les mêmes soucis que toi. Et donc, ouais, en fait, même moi, je suis plein de personnes sur Instagram et je me doute qu'elles ont forcément, il y a forcément des trucs qui vont pas dans leur vie. Et en même temps, j'ai pas besoin de le savoir forcément, c'est pas ça que je viens chercher. Donc voilà. Mais ça m'empêche pas, tu vois, par exemple, je sais pas si tu connais Céleste Barber sur Instagram.
Non, mais
tu vois
qui.
C'est pas un truc de barber. C'est une comédienne américaine. Et au contraire, elle, sur son Instagram, elle parodie un peu plein de starlettes ou qui justement montrent une vie parfaite et elle fait complètement l'opposé dans des photos très drôles où elle te montre
genre woke up like this.
Ouais, voilà, mais genre il y a zéro filtre, voilà, tu vois sa cellulite, enfin, et bah voilà, mais à l'inverse, j'adore suivre son compte, mais moi c'est pas un truc
parce que ça reflète sa personnalité peut-être.
Ouais, voilà, complètement. Et moi, c'est pas ma personnalité, encore une fois, même que je sois sur les réseaux sociaux ou pas, j'ai jamais été comme ça. Donc, justement, je me vois pas. Tout à l'heure, tu me disais, est-ce qu'il y a deux personnes différentes? Je pense que non, pas du tout, il n'y a pas deux personnes. Je suis vraiment comme je suis dans la vie sur les réseaux sociaux, en fait.
Et alors, est-ce que ça t'arrive, ça c'est vraiment des questions, ça c'est méga. Est-ce que ça t'arrive de poster un truc et de te dire non, en fait, et de le retirer, genre?
Non. Non, mais non, parce que franchement, je fais quand même attention à ce que.
D'accord.
Parce que, et puis moi, je suis pas du tout. j'ai toujours veillé, tu vois, en 10 ans d'exposition, à jamais être dans la polémique ou dans... Donc, je vais jamais poster sur un truc qui peut être amené à générer plein de trucs négatifs qui m'amèneraient à supprimer un contenu, en fait. Donc, non, je veux pas de...
Et quelque chose qui est vraiment intéressant, je trouve, dans ton parcours, c'est le sentiment, tu vas me dire si j'ai juste, que en fait, tu savais à peu près tout le temps ce que tu voulais faire. Que qu'à l'inverse, à la différence d'autres personnes, tu t'es pas vraiment cherché.
Ouais. Et alors ça, c'est assez vrai. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, mais j'ai vraiment du mal à l'expliquer. Parce qu'effectivement, je le vois avec... J'ai 3 frères et sœurs. On est assez rapprochés, donc on a tous des parcours assez différents. Mais je vois bien... Bah, j'ai un frère qui a fait du droit comme toi et qui s'est bien plus cherché que...
Vous avez eu la même éducation tous les...
Oui.
C'était comment, la même éducation.
Une éducation très... justement, un vrai... comment dire, je sais pas, un noyau familial très très fort. On est très très proches et avec des parents très comment dire très à la fois avec qui nous poussaient quand même beaucoup à nous dépasser. Donc par exemple, si tu rapportais un 15 sur 20, bon bah toi t'étais trop content, mais mon père il allait toujours dire pourquoi t'as pas eu 20. Enfin, tu vois. Donc un peu toujours. Alors je t'avoue qu'à une époque c'était assez parfois un peu compliqué, parce que je me dis ils sont jamais jamais satisfaits de ce qu'on fait, mais voilà, avec je pense à des parents très très proches, et en tout cas j'ai toujours senti que j'étais soutenue dans mes choix, en fait. Ça, je pense que c'est hyper important quand t'es jeune, même si effectivement j'ai pas eu ce sentiment de m'être trop cherchée. En tout cas, je savais que j'avais le soutien de mes parents et que ils me suivaient peu importe le...
Même quand t'étais au L et que t'as décidé de fonder Jolly Box.
Ouais, bah après je les ai un peu mis devant le fait accompli. Donc ça, souvent c'est ce que je dis, et c'est que quand j'ai eu l'idée de Jolly Box.
T'avais quoi? T'avais 22. 22.
Ouais.
Tu venais d'arriver au L, je crois.
Ouais. J'ai été pigiste au L pendant même pas une année, en fait. Mm-hmm. Et effectivement, quand est arrivée l'idée de Jolly Box...
Qui était le job de tes rêves. Enfin, qui était la boîte de tes rêves.
Complètement. Ouais, c'était la boîte de mes rêves.
Et c'est marrant que tu sois arrivée dans la boîte de tes rêves et que en moins d'un an ou quelque chose comme ça.
Ouais, mais comme quoi, finalement, c'est un peu ce que je dis dans le bouquin, c'est marrant, la vie, finalement, a plus d'imagination que toi, et un truc à la fois, effectivement, je me visualise beaucoup et je me projette dans ma vie. Donc moi, je m'étais projetée au L et c'était vraiment mon rêve. Et finalement, j'y arrive. Et c'est pas ce que j'ai fini par faire.
C'est risqué de se projeter comme ça, tu penses? Est-ce qu'il y a d'autres choses dans ta vie où tu penses que c'est la bonne chose, c'est la chose que tu veux, et en fait c'est peut-être pas la chose que tu veux?
Oui, mais après, parce que en même temps je me projette, mais c'est pas comme si parce que moi je me projette pour comment dire, ça agit un peu comme un moteur, tu vois, ça m'aide à avancer, ça me motive, ça me stimule, et c'est pas non, au contraire, il y a pas de truc négatif, il y a pas un sentiment d'échec, parce que voilà, le meilleur exemple, c'est que je m'imaginais au L, je m'imaginais rédactrice en chef du L à 40 ans et voilà, et faire ma carrière là-bas. Bon bah finalement aujourd'hui j'ai 30 ans, je suis restée au L que je sais pas 8 ou 9 mois, et je suis pas du tout malheureuse. Donc non, au contraire, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est juste que le fait de te projeter, ça t'amène à des endroits, et que finalement il y a des rencontres, il y a des choses qui vont faire que tu vas peut-être prendre une autre route. À l'inverse, moi, si je me projette pas, j'ai du mal à avancer, en fait. Donc,
t'as toujours des objectifs.
Ouais. Moi, j'ai besoin d'avoir toujours des...
C'est quoi tes objectifs, là, si c'est pas indiscret? De toute façon, on est sur un podcast, donc c'est certainement indiscret, mais t'es pas obligé de répondre.
Après, je t'avoue qu'avec déjà le livre et tout, ça me fait beaucoup de... Il faut aussi que j'apprenne
à équilibrer
un peu et à mettre...
C'est marrant parce que, tu sais, en fait... je trouve qu'il y a une intuition qui est fausse, c'est qu'on croit souvent que les gens écrivent des livres sur des sujets dont ils sont experts. Ouais. Et moi, je pense que les gens écrivent des livres sur des sujets où justement ils essayent de devenir bons, en fait. Et le livre, ça fait partie de l'apprentissage, un peu.
Ouais, bah là, il faut que je mette en application ce que je dis. Non, c'est pas vrai, parce que je fais quand même beaucoup de ce que je dis, mais par contre là pour le coup je sens que je commence quand même à être fatiguée, enfin c'est quand même ça me sollicite beaucoup le fait de partir en province et puis donc voilà, donc oui j'ai des idées mais là pour le coup j'ai pas de...
Quand tu rajoutes le bouquin sur ta vie qui inclut brand director chez Birchbox, une famille habitée à Reims, ouais. Plus tes articles, ouais. Plus tes vidéos, enfin ouais. Tout ce que tu ouais. fais, ça vient au-dessus, ou est-ce que tu arrives à enlever des choses et à mettre le livre dedans?
Bah, encore une fois, j'ai fait en sorte que ça s'intègre dans mon quotidien et que voilà, et que j'ai pas l'impression de me rajouter une tâche en plus. Après, pour être complètement honnête, les deux derniers mois avant de rendre le manuscrit, j'étais vraiment j'étais proche du burn-out et tout, tu vois, j'étais jusqu'à 3h du mat tous les soirs en train de l'écrire, de le relire, et puis en fait j'avais plus de recul à la fin. Surtout que je voulais le faire lire à personne, parce que moi j'aime pas trop quand on me donne avoir des avis, en fait, parce que je trouve que parfois les gens ont tendance à projeter des choses qui sont différentes de ce que moi je voudrais faire passer. Donc là, j'avais peur d'avoir trop de...
Bah, c'est un peu le problème des conseils, en fait. C'est que je pense que je le fais aussi. Quand tu donnes un conseil à quelqu'un, tu peux ouais. pas t'empêcher de projeter tes biais, tes idées et voilà. Ce que tu aimerais faire, toi, ouais. à sa place. Et en fait, c'est pas souvent la bonne...
Mais c'est un peu pour ça, tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai pas répondu à ta question, mais comment mes parents ont réagi quand je leur ai annoncé que je partais du L pour créer Jolibox, je te dis, je les ai un peu mis devant le fait accompli, parce que justement, j'avais pas non plus envie qu'ils projettent leur peur de parents en me disant, mais ça va pas, reste au L, enfin, voilà, moi, j'étais plus ou moins sûre de moi, ou en tout cas, je savais...
Donc, tu leur as dit, je pars du L et je monte Jolibox.
Ouais, je leur ai dit, bon, bah, avec les garçons, on a un projet, on va se lancer. Et encore une fois, faut pas oublier qu'on avait 22 ans et on n'avait pas non plus grand-chose à perdre. Je savais que si Jolibox, ça se plantait, bon, bah, 6 mois après, je pouvais revenir toquer à la porte du L et dire, est-ce qu'il y a une petite place pour moi de nouveau? Donc, je pense que, voilà, ils m'ont fait confiance...
Et c'est ce que tu avais dit, la personne que tu as rencontrée au L, qui est devenue une de tes mentors.
Anne-Cécile Sarfati, ouais, que j'ai interviewée dans le livre d'ailleurs, et qui en plus, elle a bien senti, en fait, ces mois. Parce qu'il y a quand même eu quelques mois pendant lesquels je bossais au L, et le soir, les week-ends, j'étais sur Jolibox. Et puis au fur et à mesure, Jolibox a commencé à prendre de plus en plus de place dans mes journées. Parce que voilà, je faisais des rendez-vous marques, je faisais plein de choses. Et voilà, Anne-Cécile, et ce qui est normal, au bout d'un moment, elle m'a un peu mise devant les choses, et en me disant, mais Mathilde, là, il faut que tu fasses un choix, ça va plus pouvoir continuer comme ça, parce que de toute façon, tu commences à ne plus être investi dans le L, on le sent, t'es plus efficace, et voilà, et on sent que t'es passionné par Jolibox, donc vas-y.
Il y a deux choses importantes dans ce que tu viens de dire, je trouve. C'est la première, c'est quel est le pire scénario envisageable, et je pense qu'il est souvent moins grave que ce qu'on croit, en tout ouais. cas, surtout quand on est jeune.
Ouais.
Parce que j'en parlais avec une amie récemment, mais je pense que si tu fais un projet et que tu l'arrêtes au bout de 6 mois, mais que tu le fais sérieusement,
oui.
en fait, cette expérience, elle est tellement enrichissante que de toute façon, ton profil, il est enrichi de cette expérience presque plus que si tu étais resté 6 mois dans un emploi, je pense.
Oui.
Et la deuxième chose, c'est aussi pas... Tu sais, il y a une tendance à vouloir tout quitter d'un coup, tout plaquer et commencer. Et toi, ce que tu as fait, c'est que tu es quand même resté assez longtemps au L. Et je pense que ça, c'est... tu es resté combien de temps, en fait?
Bah alors, je dirais que ça a duré... Tu veux dire le moment où j'étais Jolibox et elle, ouais. En fait, on a commencé à travailler sur Jolibox en décembre 2010 et on s'est lancé en mai 2011. Et je suis partie du L en septembre 2011. Donc, neuf mois, où c'était un peu les deux, quoi.
T'es partie à un moment où il y avait déjà des revenus?
Alors, je suis partie à un moment où, donc en fait, on a envoyé notre première box en mai, à 50 abonnés, et puis en septembre, c'était le cap où on envoyait à 2000 abonnés. Donc, c'était énorme en 3 mois. Et c'est là où vraiment, on a commencé à rencontrer des investisseurs, et on sentait qu'il y avait clairement quelque chose, et tous les quatre avec mes associés, il fallait qu'on on a tous pris la même décision. Enfin, on s'était dit, on laisse passer l'été et on voit après l'été, est-ce qu'on se lance tous à plein temps ou est-ce que finalement on continue chacun nos stages, nos petits jobs. Et donc voilà, en fait, la question, elle, je sais pas, c'était juste une évidence, en fait, en septembre, quand on voyait les chiffres, la liste d'attente qui grossissait. Ouais.
Vous aviez une énorme croissance, ça, c'est aussi intéressant, c'est, à chaque fois, je fais un peu des bullet points, c'est parce que c'est vraiment le fait que vous ayez testé, déjà, d'abord.
Ouais.
Et aussi, la deuxième chose, c'est qu'en fait, vous avez utilisé une ressource que vous aviez déjà, qui était ton blog, en fait.
Ouais. Bah, je pense qu'on se serait pas lancé. Si on n'avait pas eu la vie en blonde, ou alors on se serait lancé, mais ça aurait pris beaucoup plus de temps et on se serait peut-être fait dépasser par tous ceux qui sont arrivés après. C'est sûr qu'avec la vie en blonde, on a eu ça limitait aussi les risques parce qu'en fait, voilà, on était certain que parmi toutes les lectrices que j'avais, on aurait nos premières abonnées. On était certain que parmi toutes les marques avec lesquelles je collaborais sur le blog, y en a qui nous suivraient. Encore une fois, il faut se rappeler que c'était voilà, il y a 7-8 ans et que les marques étaient beaucoup moins sollicitées. Il y avait beaucoup moins de blogueuses, de youtubeuses, donc c'était bien plus simple d'émerger et de voilà et d'innover. Voilà, il y avait un peu encore une fois tous les facteurs au vert pour se lancer.
Mais c'est intéressant parce que souvent on dit l'entrepreneuriat c'est prendre des risques, il faut prendre des risques. Et en fait on se rend compte quand les projets fonctionnent, souvent c'est qu'il y a les fondateurs ont très bien limité les risques. Et là dans votre cas par exemple vous aviez un concept qui existait déjà, et que tu voulais en plus pour toi.
Ouais.
C'est ça qui est vraiment intéressant aussi quand tu lances un projet, je pense, c'est de vouloir ce truc tu crées.
Ouais,
ben... Finalement, est-ce que si tu avais pu acheter la Birchbox, tu l'aurais fondée?
Bah peut-être pas, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que moi, mon premier réflexe, en fait, quand j'ai vu Birchbox, c'était de me dire comment je peux m'abonner. Et voilà, sur leur site, c'était marqué Shipping US Only. Donc, et c'est là, en fait, où ça fait le déclic. Bah, si c'est réservé aux Américains, on va le faire en France. Donc, non, c'est vraiment. Mais ça, je pense que je suis d'accord avec toi. De toute façon, il n'y a pas de secret. Quand tu lances ta boîte, il faut de toute façon que le produit te parle et que tu t'en sois le premier consommateur. Enfin,
ça, c'est quelque chose qui revient hyper souvent sur...
T'es obligé, parce que quand t'es entrepreneur, les premiers mois, les premières années, tu vis tellement ta boîte et ça fait partie tellement de ta vie que si tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est juste impossible. Enfin, tu te tires une balle. C'est tellement ça va empiéter sur tout ce que tu fais. Qu'il faut que tu y croives, que tu aimes, que tout.
Oui, c'est ça, la frontière vie perso, vie pro, elle n'existe plus en fait. Enfin, elle existe moins, disons.
Oui, elle existe beaucoup moins. Après, aujourd'hui, et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que ce livre, je l'écris, notre boîte, maintenant, elle a 7 ans. Donc, ce n'est plus vraiment une start-up comme ça l'a été. Il y a 60 personnes au siège à Paris. C'est une boîte qui est rentable. Donc, le schéma est complètement différent de quand on s'est lancé et où là, effectivement, j'ai eu mon fils, peu de temps après avoir lancé Jolibox. Bon, bah, mon congé mat, il est un peu passé à la trappe. Enfin, voilà, il y a forcément un peu des concessions à faire. Mais encore une fois.
Tu l'as eu combien de temps après le lancement?
Mon fils, il est né, je l'ai eu deux ans après le lancement et c'était pile au moment de la fusion avec Birchbox. Donc, c'était un moment hyper important pour nous en tant que boîte. Et en même temps, j'avais cet événement personnel qui était tellement plus fort que tout qu'encore une fois, ça m'a permis aussi de prendre beaucoup de recul sur ce qui se passait au bureau.
Une autre chose que je trouve vraiment super intéressante, c'est de voir à quel point un projet qui a démarré comme un blog de cuisine, en fait, très très tôt, est devenu plus tard... quasiment devenu Birchbox, en fait. Et ça, je trouve que ça en dit long sur à quel point les petits projets qui paraissent innocents peuvent mener très loin, tu sais.
Ouais.
Souvent, on commence pas des choses, je crois, parce qu'on se dit ça sert à rien ou c'est pas assez important. Ou on a toujours le sentiment qu'on doit monter Facebook directement, tu sais.
Ouais.
Alors qu'en fait, souvent, c'est les petites choses auxquelles on fait pas attention qui mènent à des grosses choses. En tout cas, sur ce podcast, ça revient tout le temps.
Tout le temps,
absolument.
Mais je pense qu'en fait, c'est parce que ces petites choses, c'est des choses qui... bah, qui sont vrais et qui sont sincères et qui parlent. Et typiquement, mon blog cuisine, qui est devenu un blog beauté, qui est devenu aujourd'hui un blog un peu plus lifestyle, c'est quelque chose, voilà, que j'ai toujours fait par, par passion, par voilà, c'est quelque chose qui, et je pense que ça se ressent et que c'est aussi pour ça que au fur et à mesure les gens ont commencé à adhérer, les filles ont commencé à me suivre, et il y a pas de secret, quelque chose qui marche, c'est parce que il y a voilà, derrière il y a quelque chose de sincère et de vécu derrière.
Et ça te venait d'où, toi, cet amour pour la beauté ou cet intérêt pour la beauté?
Alors ça, c'est pareil, c'est un peu la question qu'on me pose et que j'ai un peu de mal à vraiment
analyser. Parce que c'est une vraie passion, en fait.
Ouais, c'est vraiment
toi.
Quelque chose, mais même ma mère, c'est vrai que quand on sort des photos, voilà, il y a des photos de moi où j'ai l'âge de ma fille aujourd'hui, 3 ans, et j'ai déjà du faux maquillage, des bouts d'oreilles, enfin, j'avais ce côté très coquette. Et que voilà, que je sais pas spécialement expliquer. Ce qui est marrant, c'est que je vois que ma fille aujourd'hui est pareille. Alors bon, elle, pour le coup, elle m'a peut-être moins en exemple et qu'elle me voit passer du temps dans ma salle de bain. Mais après, en fait, ce que j'aime bien moi, avec la beauté, c'est que au-delà de cet aspect qui peut paraître futile à beaucoup, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus profond. Et je le vois notamment là quand je rencontre les femmes autour du bouquin, et que en fait la façon dont tu te présentes aux autres et au monde, en fait, et le fait de te maquiller, de prendre soin de toi, ça en dit aussi beaucoup sur sur tes relations aux autres, et que souvent, et notamment avec la maternité, il y a beaucoup de femmes qui ont tendance à s'oublier. Parce que voilà, c'est hyper, c'est un chamboulement énorme, et qu'il y a quelqu'un qui finalement est plus important que toi, et c'est ton enfant. Et finalement, la beauté, ça peut être ça qui en raccroche, qui donne le déclic à beaucoup, en fait, d'aller chez le coiffeur. Enfin, quand tu vas pas bien, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez le coiffeur. Enfin, en tout cas, les femmes, beaucoup. Tu vas chez le coiffeur pour changer de tête. Finalement, l'apparence, il y a beaucoup de choses voilà. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Ça m'a toujours, passionnée. Et je trouve que, voilà, c'est bien plus que, tu vois, je m'amuse pas à collectionner des tubes de rouge à lèvres. C'est pas du tout ça qui m'intéresse. En fait, c'est vraiment comment tu aides des femmes, en l'occurrence, parce que moi, c'est vraiment des femmes. Comment tu aides des femmes à se sentir mieux et finalement à se révéler et à, voilà.
Mais est-ce que la question... c'est marrant parce qu'il y a eu beaucoup de femmes qui sont venues récemment sur ce podcast. Ouais. J'ai le sentiment que certaines d'entre elles diraient que ça fait partie d'un conditionnement et que c'est un problème à prendre dans l'autre sens. Qu'en fait, il faudrait déconditionner les gens à avoir besoin de se trouver beau pour se sentir bien et faire en sorte qu'ils se sentent bien
sans se trouver beau.
Parce que ça, je comprends aussi qu'on puisse... comment dire? On peut pas avoir...
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tous les combats, j'ai envie de dire.
Oui, mais par exemple, pour moi, se trouver beau, c'est pas forcément... tu peux te trouver belle sans être apprêtée, maquillée, coiffée. C'est pas ça, tu vois. C'est pas... Encore une fois, c'est pour ça, c'est ce que je dis. C'est pas que de l'apparence physique. C'est prendre soin de toi, ça passe par plein de choses. Et ça, par contre, moi, je suis pas d'accord avec les gens qui disent faut qu'on arrive à se détacher de soi et de... Parce que de toute façon, les... Enfin, c'est hyper dur à expliquer ce truc, mais pour réussir et pour te sentir bien, de toute façon, tu as besoin d'être bien et d'être en phase avec toi-même. Et on va pas se mentir, ça passe par une bonne hygiène de vie, par quand tu es crevé, si tu manges mal et tout, tu n'as pas d'énergie, c'est pas là où tu vas dire ouais, chouette, je lance ma boîte. Non. Enfin, tu vois, tu fais du sport. Moi, du sport, c'est là où j'ai 38 idées à la minute. Enfin, donc pour moi, c'est encore une fois, c'est un cercle vertueux. Et donc, je dis pas juste mettez votre tube de rouge à lèvres et tout va bien aller. C'est pas du tout ça. Mais c'est que je pense que encore une fois, être bien dans sa vie, être bien au boulot, être bien, ça passe aussi par juste prendre soin de soi. Mmh. Et voilà, et prendre soin de soi, ça peut être.
Donc tu dis que
plein de choses différentes. En fait.
Comment la manière dont tu te présentes, ça fait partie de presque de tout le reste du cycle qui serait être en bonne santé, faire du sport,
ouais,
bien dormir.
Je pense. Enfin moi je et c'est pas que je pense, c'est aussi quelque chose. Tu fais le constat, tu vois quelqu'un, je sais pas, tu rencontres quelqu'un à un rendez-vous qui arrive avec des cernes, les cheveux gras, plaqués, une mine d'enterrement, enfin. Je suis désolée, mais c'est pas quelque chose qui va te, sans s'arrêter qu'au physique, c'est pas quelqu'un qui va transpirer la joie de vivre et le quelque chose de positif. Et donc, encore une fois, je pense que tu attires ce que tu dégages et tu, voilà. Enfin, pour moi, tout est lié. Donc, c'est, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois.
Et c'était pas, je sais que c'est des questions qu'on te pose beaucoup sur ton rôle d'entrepreneur. C'était pas trop difficile d'être à la tête de ta boîte avec tout ça qui arrive en même temps et en plus d'être la seule femme de l'équipe.
Alors,
qui sont peut-être des questions un peu différentes.
Oui, parce que encore une fois, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est 7 ans après le lancement. Aujourd'hui, c'est plus moi, c'est un de mes associés, Quentin Régrobelet, qui est notre DG.
Tu parles plutôt de Jollybox. Hein, de...
Ah oui, bah oui, mais alors Jollybox, pour moi, c'est différent parce qu'à l'époque, j'avais pas, quand j'ai lancé Jollybox, j'avais pas 3 enfants, j'avais pas, enfin, ma vie était bien différente. Donc en fait, encore une fois, je pense que j'ai fait des choix au fur et à mesure qui se sont, je sais pas, imbriqués les uns les autres. Et que donc, non, j'ai pas l'impression d'avoir... ça me semblait pas insurmontable ou compliqué. En fait, souvent, c'est plutôt les gens, quand ils voient de l'extérieur... Mais de toute façon, c'est un peu tout le temps comme ça. Quand tu vois la vie des autres de l'extérieur, tu te dis, mais comment elle fait ? Mais finalement, quand tu le vis, toi, moi, c'est tout. Moi, c'est ma vie et ça me semble pas plus compliqué qu'une autre, en fait. Donc, et encore une fois, c'est des choix que j'ai faits. Donc, en fait, je pars du principe qu'à partir du moment où c'est des choix que tu fais, tu les assumes et tu les vis bien mieux que si c'est des choses qui m'étaient tombées dessus et que je m'étais retrouvée enceinte 3 fois, que je le voulais pas. Enfin, c'est con, mais c'est vraiment, encore une fois...
Ouais, tu t'apitoies vraiment pas du tout sur ton sort, quoi.
Non, pas du tout, mais parce que je vois pas pourquoi je m'apitoierais, en fait. Encore une fois, il y a tellement pire dans le monde que j'ai pas le droit, en fait. Enfin,
ah non, mais c'est bien. Moi, je pour le coup, je pense que j'ai parfois un peu tendance à m'apitoyer sur mon sort, tu vois.
Ouais.
Je prends ce genre
de... Un petit caliméro.
Non, ça va, mais... la capacité à rationaliser comme ça,
ouais.
Je pense que parfois, je l'ai pas aussi loin, tu vois. J'ai les concepts, Antonin, tu devrais rationaliser, j'arrive pas forcément à aller jusqu'au bout, tu vois.
Après, j'avoue que je pense que la maternité aussi, ça m'a aidé à prendre énormément de recul sur plein de choses.
Pourquoi ? Comme quoi, par exemple ?
Parce que en fait notamment quand tu es entrepreneur c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ta boîte c'est toute ta vie et tu penses, tu dors, c'est tu penses plus qu'à ça. Honnêtement en fait le jour où tu as un enfant tu réalises que finalement oui, c'est génial ce que tu as fait mais il y a quand même en fait un truc qui est 1000 fois plus, je sais pas si
tu changes de focus un peu.
Voilà, en fait, c'est tu changes de focus et donc ça veut pas dire que ça m'énerve. Ça veut pas du tout dire que t'es moins ambitieuse ou que t'as pas envie de bosser et tout. Pas du tout. Ça veut dire que justement, ça te permet une sorte de prise de recul vis-à-vis de ton boulot et de la façon dont t'envisageais ton quotidien, qui moi en tout cas me permet. En fait. C'est très bateau, mais je me dis maintenant, tant que mes enfants sont en bonne santé, que, eh ben, en fait, tout va bien. Et c'est un peu pareil au boulot, en fait. Ouais, non, mais de toute façon, t'es obligé, parce qu'en fait, sinon, si tu te mets une pression permanente sur tout, mais tu craques.
Enfin, tu te mets la pression. Est-ce que t'es du genre à te mettre la pression beaucoup?
Oui, par contre, je me mets la pression, mais encore une fois, sur moi. Je pense que je suis très exigeante avec moi-même et que voilà, après, bon, j'ai toujours été comme ça. Et encore une fois, je pense que si j'avais pas été aussi exigeante envers moi-même, tu vois, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. C'est aussi parce que je me remets énormément en question. Je fais un travail un peu permanent sur moi. Et ben, je pense que c'est, je vais pas chez le psy, mais tu vois, je me pose beaucoup de questions, mais comme tout le monde, mais ce qui fait que ça m'aide à avancer.
C'est quoi tes questions du moment?
Mes questions, c'est, j'en ai plein, mais parfois, effectivement, je me dis, mais est-ce que j'en fais pas trop? Est-ce que, finalement, parfois, quand je vois des copines qui sont juste, je sais pas comment dire, salariées, qui ont un truc plus classique, un schéma de vie plus classique, mais quoique ma vie est assez classique, finalement, mais je sais pas comment dire, j'ai l'impression que, effectivement, je me rajoute beaucoup de choses, beaucoup d'ambitions, beaucoup de projets. Et que parfois, ça serait peut-être plus simple si je laissais juste faire les choses et que j'arrêtais de toujours vouloir plus. Et en même temps, je sais, c'est ce que je disais. Et en même temps, je sais que de toute façon, j'ai besoin de ça et que j'arriverai pas à m'arrêter. Et que donc, il faut juste que je fasse en sorte que tout s'équilibre plus ou moins bien.
Et t'arrives, ça m'intéresse beaucoup. Hein. Je pense que j'ai un peu tendance à m'en mettre trop aussi sur le plateau, comme ça se dit pas, mais comme ils disent, on the place en anglais. Est-ce que tu arrives à être satisfaite, en fait? Est-ce que tu arrives à te dire, ah, ça va, j'assure? Oui. Ou est-ce que tu es toujours en train de te dire, ça va, ouais, mais je pourrais assurer comme 10% plus, quoi?
Alors, j'ai fait beaucoup de progrès là-dessus parce que j'avais vraiment une tendance à toujours. Justement, en fait, avec ce travers de toujours me projeter, toujours, à pas profiter de l'instant présent. Parce que je me disais, bon, bah, ok, c'est cool, on a fait ça, mais c'est quoi le prochain truc? Et en fait, au bout d'un moment, c'est épuisant parce qu'en fait, tu profites
toute ta vie,
jamais.
En plus.
Ouais, voilà, ça, tu ne sais pas quand ça s'arrête. Et encore une fois, je pense que le fait d'avoir mes enfants m'a pas mal aidé. T'es un peu obligé, en fait, quand t'as des enfants, de prendre la vie au jour le jour parce que c'est tellement différent de tout ce que t'as vécu que de toute façon, tu sais pas vraiment ce qui t'attend. Et ça, ça m'a un peu aidé à, encore une fois, à me dire, bon, on voit un peu plus, plutôt que de me projeter à 6 mois tout le temps, voilà, maintenant je me projette plus à 1 mois.
Et t'as donc, descendu là.
Voilà, j'ai descendu le curseur. Mais après, encore une fois, c'est aussi une question de personnalité. De toute façon, je sais que j'ai besoin de ça pour avancer. J'ai besoin de me projeter. J'ai besoin d'avoir des projets. Après, c'est plus une question de maturité, d'être capable de faire un choix, de hiérarchiser, et de dire non. Et ça, j'en parle dans le bouquin. Mmh. Et je pense que ça, tu l'apprends en grandissant.
C'est quoi ton système pour savoir quand est-ce que tu dis non à quelque chose?
Eh ben, je pense que c'est vraiment l'instinct. Et suivre
c'est le ventre, quoi,
ou... Non, mais vraiment, et c'est vraiment un truc, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai pas suivi mon instinct initial, et ben finalement à chaque fois je me suis dit, mais pourquoi tu t'es lancé là-dedans, mais pourquoi t'as dit oui, mais pourquoi? Et donc vraiment de s'écouter mais encore une fois, c'est pour ça que ça rejoint un peu ce dont on parlait tout à l'heure, être capable de s'écouter. T'arrives à t'écouter si t'es bien en phase avec toi-même, en fait, tu vois, et si t'es pas bien, et ben ça, c'est compliqué de s'écouter. Enfin, encore une fois, je trouve que tout est vraiment hyper lié, et voilà, et c'est un travail à faire,
faire sur soi. T'as fait un travail conscient pour apprendre à te connaître, tu dirais? Parce que là, tu me dis, je sais ce dont j'ai besoin ouais, de projets, j'ai besoin d'être ambitieuse, ouais. Donc j'ai le sentiment en t'entendant que vraiment, tu te dis, bon, bah, c'est bon, je sais comment je fonctionne, je sais que j'ai besoin de ça, je sais qu'il ne faut pas que je fasse ça.
Ouais, bah, je pense que oui, de toute façon, avec l'expérience et avec le fait d'avoir lancé ma boîte très jeune, le fait d'avoir mes 3 enfants, bah, forcément, tu apprends à c'est plein de choses de la vie qui font que bah, tu apprends à te connaître, tu apprends à savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, à te débarrasser un peu du superflu ou en tout cas du négatif qui peut avoir tendance à un peu te parasiter quand t'es plus jeune. Donc oui, après je dis pas encore une fois, voilà, j'ai que 30 ans, donc j'ai encore plein de choses à apprendre, mais c'est juste que et c'est pour ça que je dis que l'équilibre est un truc très fragile, c'est que voilà, c'est juste un travail un peu permanent et que mais c'est même pas un travail, enfin c'est quelque chose voilà que oui, je fais de manière consciente, mais c'est pas chaque jour je me dis pas oh là là, qu'est-ce que je vais faire. Voilà, je sais pas, je le fais au quotidien.
Comment tu dis non? Ça m'intéresse parce qu'en fait, moi, c'est assez récent, mais je commence à avoir beaucoup de petites sollicitations, ouais, disons. Et moi, je suis pas très très bon à dire non, en fait.
Ouais.
J'apprends parce que, en fait, le problème, c'est que mon vrai problème, c'est que je vais dire oui, mais je ne peux pas le faire quand j'ai pas envie de le faire. Je ne peux pas.
Ah oui.
Je suis incapable de faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Je crois que c'est mon plus gros défaut, ou peut-être que c'est une qualité aussi, du coup, tu
ouais.
vois. Vraiment, si je dis oui, il y a quelque chose que j'ai pas envie de faire. La veille, je vais envoyer un email en disant je ne peux pas, je ne vais pas venir, et les gens vont me détester. Et après, ils me parleront plus jamais.
Ouais. Et ben ouais, mais tu vois, moi j'avais tendance à être comme ça, et finalement, je me suis rendu compte que c'était pire que tout, à la fois pour les gens à qui tu dis non à dernière minute, et à la fois pour toi, parce que finalement, tu te sens mal, et pendant une semaine, tu dis oh là là, je vais devoir leur dire non, je vais devoir leur dire non. Et donc en fait, c'est des choses comme ça où maintenant, encore une fois, je me dis bon bah dès le départ. Dis non. Et en fait, les premiers noms, ils sont un peu durs à dire.
Et comment tu dis non alors? Concrètement, parce qu'il y a vraiment beaucoup de manières de dire non. Parfois,
oui,
je reçois
un non.
Parce
qu'en fait, souvent, moi, ça va être, si c'est des sollicitations, c'est, de toute façon, les manières où je suis amenée à dire non, ça va être des sollicitations soit pour mon Instagram ou mon blog, ou soit via Birchbox. Et c'est très simple, en fait, c'est que moi, je me connais, je connais ma charte, entre guillemets. Et pareil, Birchbox, je connais tellement la marque. Enfin, c'est moi qui l'ai un peu imaginé que, en fait, maintenant, je suis capable de dire non. Je sais dire si c'est en phase avec, si c'est en phase avec notre image, si c'est en phase avec nos actions. Donc, après, voilà, il y a plein de façons de dire non. Mais finalement, en fait, tu te rends vite compte que s'il y a une explication clair derrière, tu vois. Moi, si une marque me contacte, et je vais pouvoir très facilement dire non, c'est pas en...
Et si quelqu'un te contacte pour... Faut savoir que quand je pose des questions, c'est,
ouais,
parce que c'est souvent,
vas-y,
la réponse, elle est souvent pour moi. Si quelqu'un te contacte pour prendre un café, déjeuner...
Ah oui.
Tu sais, parce que
ça,
souvent, ils vont
ouais.
dire j'aimerais bien prendre un café, et ça va prendre 5 minutes. Sauf
ouais,
que ça prend
ouais.
jamais 5 minutes,
non, ça...
et qu'en plus, si tu fais... Enfin, tu peux pas en fait faire ça parce que tu t'arrives plus
ah
à
oui.
rien faire ensuite. Quoi.
Ah ça, par contre, ça je vois, parce que pareil, tu vois, j'ai toutes les semaines de demandes de est-ce que vous pourriez être notre chef de mémoire pour on fait un mémoire sur les box, on fait un mémoire sur la blogosphère. Ça, j'en reçois toutes les semaines, et ça, c'est vrai que je dis non à quasiment toutes les demandes, sauf si encore une fois, c'est pas un non méchant, c'est un non de prioriser, de hiérarchiser les choses. Et donc voilà, ça va être un non où je vais expliquer que voilà, je suis désolée, mais j'ai vraiment pas le...
Tu vas expliquer, ouais.
J'ai pas le temps. Après, encore une fois, je vais pas non plus me justifier. Après, pareil, je suis très sollicitée, effectivement, pour aller prendre un café, pour des personnes qui veulent m'exposer juste leur projet de business et tout. Encore une fois, là, je vais beaucoup fonctionner au feeling, et si juste le projet m'intéresse, je vais dire ok, dans un premier temps, dites-moi en plus juste par mail. Voilà, encore une fois, je ne peux pas de toute façon me permettre de me laisser déborder par ces choses-là. Et je me connais et je sais ce que j'ai envie, et encore une fois, de laisser paraître comme image et comme message, que je ne me laisserai jamais imposer un truc qui n'est pas en phase avec moi.
D'autant qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut régler par écrit aussi, je trouve.
Oui,
tu sais,
non,
par,
mais c'est ça.
Par exemple...
Oui.
On n'a pas besoin de déjeuner une heure pour discuter d'une
ouais.
idée de boîte, par exemple.
Oui,
tu vois,
oui.
On peut envoyer un email, quoi. Et j'ai entendu un truc assez intéressant récemment. C'est un type ultra célèbre, je sais plus exactement qui disait que pour dire non, il a un système. C'est que toute opportunité, enfin, toute demande,
ouais.
quoi qu'il arrive, il va la noter entre 0 et 10, sauf qu'il n'a pas le droit d'utiliser 7.
D'accord.
Et en fait, il n'a pas le droit d'utiliser 7, parce que 7, c'est le chiffre que tout le monde va utiliser
ouais.
pour prendre une décision. Ça, c'est le chiffre un peu neutre.
Ouais, ouais.
Et si tu enlèves le 7, donc soit l'opportunité, c'est un 6, et du coup, c'est à peine mieux que 5, donc c'est nul.
Ouais.
Soit l'opportunité, c'est un 8,
et
du coup, tu y vas, tu
ouais.
vois. Et là, ça commence à être mon nouveau système. Là.
Ouais, non, mais c'est un peu ça, en fait.
Bah ouais.
C'est un peu. Je connaissais pas ce système de notation, mais
ou
oui, c'est
le fuck yes
peu...
or no, tu vois. C'est...
Ouais. Oui, bah oui, mais c'est un peu ça. Pour moi, c'est quand on me sollicite sur un projet, ça va. Je vais plutôt avoir tendance, encore une fois, à me projeter, à me dire, est-ce que j'investirais dans ce genre de boîte, ou est-ce que j'ai l'impression que c'est déjà vues et que voilà, je t'avoue que je reçois toutes les semaines des mails sur des filles qui ont envie de lancer leur box. Bon, je dis pas qu'il y a pas il y a plus de place à prendre, mais c'est je me dis juste que voilà, ça fait 8 ans que les box ont été lancées, il y a peut-être un nouveau truc à lancer sur le marché complètement il y a encore plein de choses à faire. Donc voilà, moi je suis vraiment plutôt mais par contre, je reste quelqu'un de très disponible et je réponds quasiment à tous les messages que je reçois sur Instagram. Mais ça ne m'empêche pas de dire non parfois. Mais je fais en sorte de répondre. Mais voilà.
En parlant de... Tu sais, on parle des gens qui t'écrivent pour leur projet. Est-ce qu'il y a des très mauvais conseils que tu entends donner aux gens dans l'entrepreneuriat?
Après, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les conseils. Moi, je fais toujours très attention parce que je pense que l'expérience que j'ai vécue, c'est pas comme si je pouvais te sortir la recette exacte de pourquoi ça a marché. Et je sais que tu peux jamais répliquer à l'exact quelque chose que tu as réussi. Donc, moi, je conseille jamais quelqu'un... Enfin, comment dire ? Si quelqu'un me sollicite et me pose une question, la semaine dernière, je rencontre une entrepreneure et elle me dit, voilà, là, il faut absolument que j'embauche. Quel profil tu penses qu'il me manque quoi comme profil? Bah là, très clairement, j'avais un peu plus ou moins analysé déjà de qui elle était entourée et de qui potentiellement elle avait besoin. Ce genre de conseil, je trouve que tu peux le donner. Après, quand c'est des conseils, je sais pas, très très larges, je trouve que c'est compliqué parce qu'en fait, tu peux à la fois, je veux pas donner de faux espoirs à des gens. Parce que je vais pas leur dire bon bah je vous conseille et donc ça va être un énorme succès. Je trouve que c'est un peu comme les conseils sur la maternité, tu vois. Bon bah tu peux jamais vraiment.
Il y a beaucoup de mauvais conseils sur la maternité.
Oui, parce qu'en fait tu seras jamais la même mère qu'une autre et tes enfants, ça sera jamais les mêmes enfants que d'autres. Donc en fait encore une fois l'instinct et la façon dont tu fais les choses, ça sera de toute façon, tu seras la meilleure mère pour tes enfants. Et je pense que c'est un peu pareil quand t'es entrepreneur. Si tu vis ton projet et que t'y crois, bah t'as pas forcément besoin d'aller récolter plein de conseils. Et moi, tu vois, j'ai pas eu de mentor en lançant Jolibox. On n'a pas eu avec mes associés, on n'a pas été spécialement conseillé ou... Voilà, on a beaucoup, beaucoup fonctionné. Après, on avait la chance d'être tous les cinq. Donc forcément, à cinq personnes, tu t'aides beaucoup. Mais voilà, on s'est beaucoup fait confiance et on a beaucoup fonctionné à l'instinct.
Quand tu commences à faire, les choses avancent beaucoup plus que... Je sais que moi, j'ai passé beaucoup de temps... Bon, beaucoup de temps, c'est relatif, hein, mais il y a quelques années, à énormément lire, à énormément brainstormer tout seul, si je peux me permettre, ou, tu sais, à être beaucoup dans ma tête, quoi. Et en fait, il n'y avait rien qui avançait jamais, tu vois. Et en fait, dès que tu commences à faire un truc, le simple fait de commencer à le faire, ouvre toutes les portes. Bah ouais, c'est même pour les idées, les gens. Moi, j'étais beaucoup là, alors j'ai pas la bonne idée, et je faisais des listes d'idées de start-up, etc. Et en fait, ça sert à rien parce que tu peux prendre l'idée la plus bidon. Si t'as envie de la faire et que tu la fais avec ta personnalité, tu vas forcément trouver un truc original au bout d'un moment parce que c'est toi qui le fais, en fait. J'ai le sentiment. Hein,
mais complètement. Complètement. Je pense que. Je fais pas mal de conférences, voilà, d'entrepreneurs où je rencontre. Alors souvent c'est des femmes et qui me disent, j'ai vraiment envie d'être entrepreneur. Je suis en train de chercher la bonne idée et tout. Alors oui, ça peut fonctionner comme ça, mais parfois en fait, je pense que c'est aussi en fait la bonne idée, elle te vient parce que dans ton quotidien, un jour, tu vas te rendre compte que tiens, il manque ça ou tiens, ça pourrait être mieux fait. Et c'est pas vraiment, comme tu dis, en faisant ta liste d'idées. Que tu vas réussir à vraiment te lancer, qu'il va y avoir un déclic. Enfin, en tout cas, je suis pas sûre. Et pour en revenir à ce côté conseil, je pense qu'il faut faire très attention parce qu'encore une fois, les gens alors peuvent être très bienveillants, mais les gens peuvent aussi énormément projeter leurs craintes et leurs angoisses sur toi et ton projet. Et ça peut au contraire complètement te déstabiliser. Et voilà. Et c'est pour ça que moi, j'ai tendance à ne pas partager en fait mes idées, mes projets, enfin potentiel. Tu vois, le bouquin, j'en ai parlé à personne. Parce que j'avais pas envie qu'on vienne me dire ah mais t'es sûre, mais tu vas parler de ça, mais voilà. Je pense que c'est un peu. Après, je dis pas qu'il faut parler à personne et tout, mais en tout cas, je pense qu'il faut être très conscient que parfois les gens, même s'ils veulent être de bons conseils, ne le sont pas forcément.
En plus, moi, j'ai le sentiment avec le recul qu'il faut pas forcer l'entrepreneuriat. Que ça, en fait, c'est vraiment, ça s'illustre avec ton parcours, je trouve. T'as commencé avec un blog de cuisine, en fait. Et on se rend compte que c'était juste un petit intérêt au début que t'as cultivé, avec toujours un parcours assez solide dans ta tête de « je veux aller au L », etc. Ouais. Et en fait, c'est que comme ce projet a pris de l'importance, t'as fini par devenir entrepreneur. Toutes les fois où j'ai essayé de lancer des trucs, bon, sauf une fois avec un pote à moi où ça a vraiment marché, mais ouais. Ben, généralement, ça c'était trop de pression, en fait, parce que tu te dis, faut que ce truc devienne un truc d'entrepreneuriat énorme, t'enlèves toute la naïveté, toute l'insouciance de ton projet, t'enlèves presque, en fait, toutes les petites étincelles, quoi. Et c'est trop. Alors que je pense, si tu peux garder cette légèreté et développer des projets sur le côté, quitte à avoir un job, avoir une carrière à côté, bah, tu peux, t'as plus de chances, j'ai le sentiment, d'ensuite de lancer un truc qui marche bien ou qui te plaît, en tout cas.
Qui te plaît. Ouais, et je pense que c'est un peu le problème, d'aujourd'hui, avec effectivement un peu ce boom de l'entrepreneuriat et où effectivement tu vois beaucoup de success stories et donc ça fait rêver énormément de jeunes et qui donc aujourd'hui se disent bah moi je vais être entrepreneur. Et finalement, je pense qu'encore une fois, l'entrepreneuriat, j'ai l'impression, enfin en tout cas les idées, les projets qui décollent, c'est parce que clairement il y avait une idée et un besoin qui ont été ressentis et vécus par leur créateur. Et c'est rarement une personne qui s'est dit, qui a ouvert un magazine et qui s'est dit, tiens, je vais lancer ça. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a de toute façon, il y a besoin d'avoir
Bah parce qu'il faut le vouloir vraiment, quoi.
Ah non, mais oui. Parce que mais sinon, il faut le vouloir, il faut le vivre, il faut... moi, j'y crois vraiment. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment faire attention à ne pas idéaliser l'entrepreneuriat. Et je pense que tout le monde n'aura pas les bonnes idées et tout le monde n'est pas fait pour. Donc voilà, il faut faire attention.
En parlant de success stories, est-ce qu'il y a des choses que tu as ratées qui ont en fait... Parce que souvent, l'échec, le succès, notamment on disait ça dans un autre épisode, je crois que c'est un peu les deux versants d'une même pièce, quoi. À un moment, tu es dans l'échec et puis juste après, c'est un succès, tu vois. Est-ce que tu as l'impression d'avoir eu des échecs qui ont créé ton succès pour plus tard, en fait ? Est-ce que tu as déjà raté des choses, en fait, aussi ?
Bah alors, j'ai pas l'impression d'avoir raté des choses au point que ça ait pu avoir un impact ou une vraie leçon de vie, en fait. Alors je pense que peut-être je suis encore j'ai que 30 ans et donc je me dis parfois je me le dis en plus hein, tu vois c'est, tout à l'heure on parlait c'est quoi les questions que tu te poses et ben souvent c'est ce côté où j'ai l'impression d'être tellement gâtée par la vie et par tout ce que j'ai que je me dis quand est-ce qu'elle va arriver cette grosse claque qui est jamais arrivée encore. Et Et ça, c'est un peu une de mes angoisses, en fait, de me dire, ça va être quoi le gros échec ou le gros truc? Parce que c'est vrai que, oui, il y a des petits échecs, enfin, des petits ratés, mais c'est, je sais pas, encore une fois, c'est des choses du quotidien qui sont vraiment anecdotiques. J'ai pas eu cet énorme, ce truc vraiment qui m'aurait poussé à me remettre
en question.
T'as
l'impression que ça va arriver à un moment et que...
Bah, je sais pas, après, non, bah, j'espère pas, tu vois. Ouais. Mais parfois, je me dis, mais c'est incroyable d'avoir... j'ai quand même énormément de chance. Après, parfois, quand j'ai ça, les gens me disent, mais non, mais la chance, ça n'existe pas. C'est vrai que je me suis aussi créé la vie que j'ai aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça reste dans un coin de ma tête où je me dis, j'ai quand même de la chance. Et je ne sais pas si un jour, il y aura un...
Ça, c'est marrant parce que je connais aucun intérêt pour le podcast en lui-même, mais je connais une personne qui beaucoup pensé à toi, qui dit les mêmes choses.
Ah ouais?
Ouais. Qui me disait, en fait, parce que il ne s'est jamais rien passé de très mal, de très mauvais. Ouais. Et j'ai l'impression que ça va m'arriver dessus à un moment.
Ouais.
Et qui angoisse. En fait, comme il n'y a aucune autre raison spécialement d'angoisser, c'est ça l'angoisse principale.
Oui, bah c'est un peu ça. Bah, moi, c'est un peu ça, en fait, parce que je me dis, c'est un peu mon seul truc négatif. Mais parfois, tu vois, tu lis des interviews d'artistes ou d'écrivains et on va dire ce qui a fait leur succès ou c'est des écorchés vifs. C'est, ils ont vécu des drames dans leur vie. C'est ça qui les a poussés à rebondir, à avoir du succès, à se découvrir, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je me dis, c'est vrai que je suis très heureuse, mais j'ai effectivement pas vécu de drame dans ma vie ou de trucs qui m'aient complètement bouleversée. Donc voilà, j'espère que ça n'arrivera pas et que je pourrai. Mais effectivement, c'est le truc qui est dans ma tête un peu souvent. Enfin, voilà, effectivement, peut-être que je me crée cette petite angoisse de qu'est-ce qui va m'arriver.
Est-ce qu'il y a quelque chose que... On arrive sur la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que les gens te reprochent et que tu penses ne pas être vrai?
Bah alors, qu'est-ce que les gens me reprochent que je pense ne pas être vrai? Bah, notamment, avec... Alors moi, j'ai de la chance d'avoir une communauté et des femmes qui me suivent depuis longtemps et qui sont plutôt très bienveillantes. Et je pense que ça tient au fait que c'est des femmes, comme je te disais, qui ont plutôt 30-40 ans et qui sont assez matures. Mais là, j'avoue qu'avec la sortie du livre, forcément, je m'y attendais. Hein, il y a des critiques, c'est normal. Et les critiques vont beaucoup tourner autour du fait que j'ai un mari très présent et que c'est comme ça, et je le cache pas, c'est comme ça que j'ai aujourd'hui réussi à trouver mon équilibre. Et je t'avoue qu'en fait, que ces critiques m'irritent un peu, parce qu'à l'inverse, on n'a jamais, jamais dit à un homme qui a monté sa boîte et qui a 3 enfants, « Ah, mais c'est facile, il a sa femme à la maison qui gère les enfants, les courses. » Et je t'avoue que c'est ça qui me... Ça va être ce genre de critique où, bon, je me dis, c'est quand même pas normal qu'aujourd'hui, et surtout en plus, ces critiques viennent de la part de femmes, parce que 99% c'est des femmes qui me suivent et qui me lisent. Je trouve ça dommage qu'en fait, aujourd'hui, des femmes n'arrivent pas à se projeter dans un modèle différent, dans un modèle familial qui puisse être différent, et que effectivement, ça fait pas de moi une mauvaise mère de pas être à la sortie de l'école tous les jours, et à l'inverse, je me permettrai pas d'aller critiquer une femme qui a choisi d'être femme au foyer. Et donc je pense que je sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais sur le côté critique, ouais. C'est un peu ce que j'aurais à dire.
Comment tu gères, toi, les... Est-ce que t'as des haters, un peu? Je pose cette question, encore une fois, parce que depuis récemment, je commence à avoir mes premiers...
Tes premiers haters?
Pas des haters,
ouais,
mais je
commence à... des gens qui râlent. Enfin,
ouais, c'est ça.
Je dirais pas que j'ai pas des haters. Après, avec la sortie du livre, je trouve qu'il y a beaucoup plus de critiques négatives. Mais alors, c'est marrant, elles vont pas du tout être... elles vont pas m'être dites directement sur mes réseaux sociaux, mais ça va être ailleurs. Après, moi, j'ai un peu le... Ça fait 10 ans que je suis sur les blogs, les réseaux sociaux, donc je t'avoue que la critique, je suis habituée. On m'a beaucoup critiqué quand j'ai lancé Jolie Box, parce qu'on m'a dit que j'avais profité de ma communauté pour lancer un business. Enfin, voilà, je suis habituée à la critique. Quand t'es blogueuse beauté, on va te critiquer sur ton physique. Enfin, j'ai envie de dire, je suis assez blindée, parce que je pense que cette critique... elle en dit souvent bien plus sur la personne qui l'émet que sur toi. Et encore une fois, je pense qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Toutes ces critiques que, en tout cas, moi, je vais avoir, qui vont être plutôt sur justement mon choix de vie et le fait que voilà, c'est mon mari qui m'aide beaucoup, que je délègue, voilà. Je pense que c'est des critiques qui vont être émises par des femmes qui justement n'ont elles pas trouvé leur équilibre propre, et que voilà, il y a une sorte de frustration qui ressort. Et que finalement, en fait, ça m'atteint assez peu, parce que je sais, moi, je sais, avec mon mari, mes enfants, je sais qu'on est heureux, qu'on a voilà, la vie qu'on a, qu'on mérite. Voilà, et donc, ça ne m'atteint pas tellement qu'une personne qui ne me connaît pas, finalement, et que je ne connais pas, pense de ma vie.
Voilà. T'as progressé à ce niveau-là? Ça t'atteignait au début? Je pose cette question parce que, pour le coup, je suis très... Moi, j'ai vraiment des progrès à faire là-dessus, quoi.
Ouais, ouais.
D'ailleurs, je sais pas si c'est une bonne idée de le dire dans le podcast.
Ben non, mais si, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir de laisser un message. En fait, les gens n'oseraient jamais dire ça de vive voix. Il y a des messages là que les filles laissent à propos de mon livre. Jamais elles n'oseraient me le dire en face. Et c'est pour ça qu'en fait, quand j'ai lancé Jolie Box, je t'avoue que les critiques, on pouvait avoir une critique négative et 100 critiques positives. La critique négative me pourrissait mon week-end, ma semaine. Mais donc, effectivement, j'ai appris à faire ce travail de me dire, finalement, ces gens qui râlent doivent être quand même très malheureux pour aller perdre du temps à aller critiquer quelqu'un qui, finalement, ça peut ne pas te plaire, mais on n'est pas en train de sauver le monde ou de... Enfin, tu vois, ça reste... nous, ça reste Birchbox, ça reste une box beauté qui coûte 13€ par mois. Moi, mon blog, ça reste un blog lifestyle où je ne parle pas de guérison contre... de cure contre le cancer. Enfin, encore une fois, il faut relativiser les choses et que parfois, je trouve que c'est complètement démesuré à cette attaque de haine sur les réseaux sociaux de gens qui se... Donc voilà, et donc c'est comme ça, moi, que j'arrive à prendre du recul, c'est que je me dis que ces gens doivent être très tristes et très... très malheureux.
Alors, deux dernières questions. La première, c'est une question que je n'ai pas posée depuis longtemps, c'est qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur ? C'est une question qui pose un entretien d'embauche chez Facebook.
Ah ouais, ouais. Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur ? Peut-être que je lancerais une nouvelle boîte. parce que je t'avoue qu'on parlait de la prise de risque tout à l'heure et à 30 ans, avec maintenant 3 enfants, 1 prêt immobilier, je t'avoue que la prise de risque, elle est, elle est complètement différente d'il y a 7 ans et que donc forcément, il y a une peur qui est là et qui n'était pas là. Donc, je pense que ça serait ça, ouais, ma réponse.
Et dernière question, c'est qu'est-ce que tu dirais à Mathilde à 20 ans comme, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil?
Je lui dirais... aie confiance dans... dans ce que tu as prévu de faire, parce que finalement, ça ne va pas si mal marcher.
Eh ben, merci beaucoup, Mathilde Lacombe, d'être venue sur Nouvelle École.
Merci, Antonin.
Où est-ce qu'on envoie les gens qui s'intéressent à toi, à ce que tu fais ?
On peut les envoyer sur mathildelacombe.com, qui est mon nouveau blog, et puis sur birchbox.fr, s'ils ne connaissent pas encore.
Super, merci beaucoup. Ah oui, merci. Et puis ton livre aussi.
Ah oui, et puis mon
Une question d'équilibre.
Voilà, qui est dans toutes les bonnes librairies.
Voilà, merci beaucoup.
Merci.
Merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast en cherchant Nouvelle École. C'est la première étape. Ensuite, vous pouvez encore plus m'aider en donnant une note au podcast, 5 étoiles de préférence. Ça se passe dans la section avis de iTunes ou de l'application podcast et ça aide beaucoup Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et ça me permet d'améliorer sans cesse le podcast. Merci à tous. Nouvelle École, c'est tous les lundis sans faute à 17h. À la semaine prochaine.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.